Et vous écoutez France Culture. Il y a urgence et nous sommes seuls. FJ Ossan. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en visite ce samedi dans l'entre-laboratoire du poète, musicien et cinéaste FJ Ossan, dont le dernier film, Neuf Doigts, est visible en salle depuis le 21 mars. Dandy électrique et guérillero millénariste, FJ Ossan pince sans trêve, poésie, musique et cinéma, les trois cordes d'une harpe électrique pour un blues blafard, on ne peut plus nécessaire, par les temps qui courent, découverte de son univers, ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui après Philippe Druillet, Mirka Lugosi, Gilbert Kay, après Bertrand Mandico, bien est en visite aujourd'hui, je le répète, chez FJ Ossan. Je serai en compagnie d'Antoine Guillot que je salue.
Bonsoir François.
Et donc de FJ Ossan qui est pour l'instant n'a pas encore fait son apparition. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'accueillir Mauvais genre donc dans ce qui est votre antre. Quel est le mot qu'il faut utiliser? Laboratoire, antre, tanière, caverne,
Bunker, puisque nous sommes en sous-sol.
En sous-sol et dans un lieu qui est un lieu de résistance et de combat.
Si on peut dire, oui.
Eh bien, merci de nous accueillir. On va donc à la faveur de cette visite et puis surtout de la sortie récente de Neuf Doigts, votre dernier long métrage, découvrir un peu votre univers qui est, je m'empresse de le dire, tout à fait en phase avec celui de notre émission préférée. Antoine Guillot, on va pas commencer tout de suite par évoquer le monde d'FJ Ossan, mais par saluer quelqu'un qui vient de disparaître, qui est FMUR, qui s'était fait rare, qui se faisait rare sur les antennes radio, et qui avait eu la bonne idée, on le remercie là où il est, d'être venu nous voir.
Oui, c'était un jour de Noël en 2011, on l'avait reçu pour ce qui sera donc dorénavant son dernier livre, c'était Robin des Bois à Sherwood, avec un Robin des Bois complètement effacé devant une Marianne qui prenait les devants. Alors FMUR, c'était évidemment le génie des Alpages, c'est bande dessinée absolument géniale, pataphysique, loufoque, avec cette montagne dessinée de deux traits et ces brebis subversives qui et philosophes qui martyrisaient le pauvre berger Athanase. Mais c'était aussi tout un univers complètement dingue avec un sens du calembour et du maniement de la langue qui faisait vraiment déraper tout et déraper le dessin, déraper les cases. Moi, j'ai une affection particulière pour sa Jeanne d'Arc. Copine comme cochon avec Gilles de Rais, tout à fait lubrique en permanence et qui finissait avec un extraterrestre. Donc on était là encore dans l'univers des mauvais genres et puis une Spirella mangeuse d'écureuils, c'est-à-dire version féminine et féministe parce que c'était un grand féministe ce FMUR de Spirou. Donc Spirella qui est accompagnée d'un écureuil géant et extrêmement baraqué. Voilà, FMUR c'était, on ne savait jamais combien de R il fallait mettre à la fin de FMUR, il disait toujours c'était 3,5, donc c'était vous qui décidiez. C'était un homme qui avait un peu une réputation de ronchon, d'avoir mauvais caractère, parce qu'il disait les choses. Il était capable de tout raconter s'il le voulait, et nous, on l'avait trouvé formidable et on l'aimait beaucoup à mauvais genre. Donc, salut FMUR.
Salut FMUR, là où vous êtes, et on continuera à lire vos albums, et on peut toujours écouter cette émission, donc, sur le site de France Culture. FJ Ossan, la bande dessinée, alors celle de FMUR peut-être, mais en manière générale, vous êtes lecteur de bande dessinée. Là, sur les rayonnages qui nous entourent, je n'en vois pas, mais peut-être que c'est un univers qu'il faut scruter, peut-être que je ne les ai pas encore vus, vous êtes bédéphile?
Non, je ne suis pas vraiment connaisseur, disons, de bande dessinée. Par contre, j'ai été, dans ma prime jeunesse, fanatique, et d'ailleurs tout le temps, de Hergé. Alors c'est vrai que j'ai lu et relu, à n'en plus finir, parce que c'est inépuisable, je trouve, Hergé. Et un petit peu Jacobs, qui était son coloriste. Mais c'est vrai que souvent, on pense que je vis vraiment dans un monde de BD, ce qui n'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, c'est le cinéma, par exemple le cinéma muet, qui n'a pas de descendant dans le cinéma contemporain, qui en fait continue chez certains auteurs, je pense.
Mais malgré tout, on parlera tout à l'heure de vos films, mais quand je les vois, et ça m'a frappé pour Neuf Doigts, la façon dont les personnages se tiennent, la façon dont ils sont costumés avec ces très longs manteaux, et même la plastique. Quand vous prenez un comédien comme Paul Amy, avec son côté statue grecque quasiment, on a ce sentiment de ligne claire. C'est-à-dire que les personnages que vous filmez pourraient sortir d'un album de Hergé, comme Tata en Amérique, par exemple.
Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je suis vraiment fanatique. D'ailleurs, on pourrait imaginer je sais pas, un réalisateur qui a réalisé 25 films du tonneau des Tintins, ça serait un des 10 plus grands cinéastes mondiaux. D'autant plus qu'il y a presque, je dirais pas un point de vue documenté, mais en fait c'est vrai, il y a la guerre du Chaco avec l'histoire d'Amérique du Sud, il y a les histoires sino-japonaises, enfin c'est... Et c'est vrai que j'ai eu tendance à relire parce qu'on peut rêver indéfiniment. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi, c'est propice à la rêverie, disons, à la lecture de ces livres. Et ça ne s'arrête pas. Et puis même, bon, j'étais moins passionné, mais c'est vrai qu'il y a Jacob Sozi qui est très intéressant. Voilà. Bon, bien sûr, c'est très écrit, alors c'est plus... ça arrête un petit peu la rêverie, comme ça, qu'on éprouve en lisant Tintin, oui.
Je tiens l'affaire du fameux neuf doigts.
Je demeure circonspect.
Je ne trouve aucune raison de douter de sa parole. Disons que c'est un faux braquage. On récupère des tapisseries, des toiles de maître et toute une série de miniatures. Mais le véritable objectif, c'est le contenu du coffre-fort.
C'est vrai que Jacobs, on y pense, on va en parler effectivement en voyant certains de vos films, avec notamment, je dirais, les scénarios, toutes ces histoires de complots, de grandes menaces, de tractations secrètes, d'organisations parallèles. Il y a un côté Jacobs, parce que Jacobs est un peu comme vous, hanté par la fin des temps, l'apocalypse, et puis la grande menace qui peut, d'un jour ou l'autre, submerger et neutraliser l'humanité. On va voir ça dans le tout au fil de notre entretien. Alors, cet endroit, on est donc... À côté de votre table de travail. Et là, on est environné de visages qui sont des figures tutélaires. Alors, on peut les énumérer. F.J. Ossant, je vois Bela Lugosi, je vois Marlon Brando dans Le Parrain, il y a Buster Keaton. En haut, c'est donc...
C'est Lemmy Cochon.
Voilà. Lemmy Cochon.
Il y a Claude Pelieu, oui, en haut. Voilà. Et puis, c'est l'acteur qui joue dans Laura, de Preminger, et dans... Dan Andrews, voilà. Exactement. Il y a un super... J'adore Dan Andrews. Qui avait un Dixon qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune.
Mark Dixon, détective. Oui, oui. D'ailleurs, dont on parlera très très bientôt à Mauvais Gens, puisque une édition vient lui être consacrée en Blu-ray et DVD. Alors, allons maintenant dans le couloir, à côté de la bibliothèque. Alors là, on va être un peu plus au rendez-vous des souvenirs, puisque je vois Stravinsky. Ça, c'est votre côté.
Non,
c'est pas Stravinsky, zut.
Non, c'est le fondateur de la revue Lef. C'est aussi Brick.
Ah.
Et dans le photocollage, là, il y a donc Lef. Lef, qui était la grande revue d'avant-garde soviétique, disons, et qui était le mari de Lily Brick, qui elle-même a été la maîtresse de Maïkovski, qui s'est suicidée en disant « Lily aime moi », et qui elle-même était la sœur de Triolet, Elsa Triolet. Voilà.
Alors, d'autres visages sont au rendez-vous. Là, on voit Antonin Artaud en cardinal dans le film de René Clair, Louis-Ferdinand Céline, Arthur Cravan, Yves Klein. Ensuite, au-dessus de nous, Yukio Mishima, René Crevel, Raymond Roussel, Stevenson, N'en jetez plus, Ezra Pound, Barbé d'Aurevilly, donc véritablement...
Alors, c'est d'une anecdote, parce que donc c'est une nouvelle qui s'appelle « Sans faux départ ». Qui avait été publié dans le magazine littéraire. Et donc, comme ça faisait déjà 2 ans qu'on allait en avant en arrière avec Joe Strummer, en fait, le film n'arrivait pas à se faire. Mais d'un seul coup, il me dit « Ah non, je fais pas le film, finalement, on a trop rêvé. » Alors qu'enfin, le film démarrait. Et donc, à minuit, je lui envoie une photocopie. Je lui dis « So long, Joe ». Et je lui envoie la photocopie, donc, où on voit donc ce portrait de Fitzgerald, qui plutôt dans les années du jean, il est un tout petit peu empâté, mais en fait, il est... toujours aussi magnétique. Et à 4h du matin, j'ai reçu un fax dément d'une page et demie. Bien sûr, je viens, tu arrives. J'écris depuis The Corpse of the Universe. Let's go to Chile. Et c'était le fantôme de Fitzgerald qui nous avait raccordé.
Et tous ces visages sont là affichés parce que vous vivez avec, littéralement, parce que vous voulez vous souvenir d'eux. Enfin, quelle est l'idée de les afficher ici, tout autour?
Oui, c'est des écrivains que j'adore. Calvi aussi adore, et puis de toute façon c'est vrai que souvent les écrivains, les vrais grands écrivains sont des faciès beaucoup plus intéressants que les autres. Et également d'ailleurs dans les films, souvent je me suis toujours inspiré avec mon chef décorateur, parce qu'il y a une ligne qui était avec moi sur Docteur Chance, Pierre-Yves Guéraud, et donc on partait très souvent d'écrivains pour les costumes. Et c'est comme ça que... Et c'est très, très intéressant, d'ailleurs. Hein, parce qu'il est très littéraire, comme ça, lui. Et donc, on partait 1910, 1905. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours une source d'inspiration, oui.
Et c'est ce qui fait qu'on ne sait jamais trop quand se passent vos films. C'est-à-dire qu'on de mélanger un costume de 1905, 1910, 1920, finalement, on est dans cette pièce. Et tout, de même que les livres existent tous les uns à côté des autres, quelle que soit l'époque où ils ont été écrits, on pourrait dire que vos films rassemblent des personnages qui sont comme ça dans un autre temps.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée est arrivée sur le trésor d'Ilchienne, comme vous voulez que ce soit important. Alors, de même que sur le plan sonore, il y a un mélange de trompe tibétaine et d'organique industriel, disons. De même, le fait de mélanger, parce que ça n'est pas sensible. Il y en a un qui est habillé plutôt en 1910, Avedikian, qui est le docteur turc. Ensuite, il y en a un autre qui est plutôt 70, un autre qui est 40, c'est Albertini, avec des pantalons larges, qui ressemble assez d'ailleurs à la mode des années 70, parce que surtout pour les femmes, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais donc comme ça, on est dans un truc un peu flottant.
De l'eau. Plus que de l'eau qui décolore les images, où l'esprit fige l'oubli du corps. Toute l'eau tapie dans la meuble matière des étranges, si étranges pièces du sommeil.
Alors on va se tourner maintenant vers Elvire, qui est là, qui nous regarde, qui nous suit, qui nous couvre des yeux et nous accompagne. Vous m'avez dit, avant qu'on démarre cet entretien, Elvire, que vous êtes la muse et la compagne, l'actrice donc des films de F.J. Ossant, que les personnes venaient ici, les amis, depuis des années et des années, et chaque fois, elles découvraient quelque chose de nouveau, un détail, un aspect, une photo. C'est véritablement une sorte de labyrinthe, comme ça, d'endroit où l'on a toujours quelque chose à découvrir, ici même.
C'est juste avec un verre d'eau ou un verre de rouge ou un alcool, l'œil n'est pas capable de tout voir. Donc c'est comme ça qu'ils reviennent à chaque fois, pour redécouvrir des images, des livres, des choses qui sont depuis qu'on est ici, je pense.
Effectivement, la bibliothèque est classée par ordre alphabétique, de manière extrêmement rigoureuse. Les livres sont en parfait état. C'est moins une bibliothèque qu'un râtelier. J'ai presque envie de dire que ce sont autant de livres, autant d'armes, autant de capacités à mener le combat intellectuel, ce que vous faites depuis maintenant près de 40 ans au moins.
Oui. C'est Burroughs qui dit que les vrais écrivains sont des gens de combat et que les œuvres sont comme des revolvers braqués sur le monde.
Il y a même un vrai revolver qui est là.
Oui. Un Beretta, c'est un Beretta. Oui, parce que j'aimais bien une époque tirée sur scène, alors à la mitraillette, alors donc à un morceau comme ça, où je joue vraiment de la mitraillette. Je recharge, mais en direct, je recharge, puis tac, parce qu'on peut tirer une fois, puis sous le mitrailleur, ou on part rafale. Et donc dans le chant des hyènes, qui est le générique de fin de... Je suis le soliste de la mitraillette.
De merde. J'ai la sueur qui me brille la cervelle et la vertébrale, cria le doc. Mais surtout ce chant de hyène, pensais-je. Ce chant de hyène qui allait depuis les fossés de tous ces maudits archipels. C'est là, boys, cours pas, Fabiano. La noire tombera d'ici peu. Déjà, la prochaine était aux approches. Oh, ce chant de hyène. Chant de hyène.
Alors dans Mercure insolent, qui est un de vos livres récents, vous faites un parallèle entre la conquête militaire, l'activité militaire et le tournage de films. Est-ce à dire que pour vous, effectivement, ça se mène comme une bataille, comme une prise d'assaut, un film ?
Oui, disons plutôt la guérilla, on pourrait dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est-à-dire qu'on fait un plan, on tire des lignes ensuite, parce que tout un film, ça consiste à... Un film s'écrit du début, disons, depuis le scénario qui est finalement aussi une matière pour... enfin, du moins, en ce qui me concerne, ça a été essentiellement la source de recherche d'argent, quoi. Enfin, la base qui permettait de trouver un peu de financement. Mais en fait, le film s'écrit tout le temps. Et c'est vrai que suivant qu'il doit être fait à trois unités ou à une, on doit tout rectifier. Et un temps qui est très très important, comme dans mes films, comme moi je fais un peu le grand écart, disons, entre vraiment le cinoche et le cinéma expérimental ou ce qui reste du cinéma d'auteur. En France, disons, je trouve quelquefois avec 60 décors qu'il faut faire rentrer en 12. Alors donc c'est très très dur pour moi. Et ensuite, c'est vrai, le choix des personnes avec qui on va faire le film est capital, que ce soit les techniciens, que ce soit les comédiens, c'est radical. C'est aussi ce qui me fascine dans le cinéma, c'est-à-dire qu'un livre, c'est des pages. Et puis dès qu'on commence à tourner, voir que d'un seul coup, un être, ben ça y est, vous allez par exemple être le docteur Mabuse, ou je ne sais plus, et il existe, ça y est, il est comme ça, et c'est incontournable. Alors effectivement aussi, le cinéma, c'est vraiment, y a bien un côté comme ça, c'est un peu l'histoire de la géographie aussi, pour définir la stratégie, disait un grand homme, et c'est vrai que le cinéma, c'est aussi faire parler la Terre, je trouve, parce que mes films sont plutôt telluriques, donc ils se posent quelque part, et à ce moment-là, on fait des opérations, et c'est vrai, comme chaque film, j'ai pas le temps de sur mes films, j'ai peu de temps pour tourner, c'est-à-dire que le dernier film, j'avais 36 jours, mais je pouvais pas perdre plus d'une après-midi. Donc il faut que chaque chapitre soit écrit, et chaque jour se gagne ou se perd, comme ça, ou se réinterprète, suivant qu'effectivement il y a un assaut, mais à la fois ça se fait avec les éléments qui sont finalement nos alliés. C'est-à-dire que dans certains de mes films, c'est vrai que la brume est arrivée exactement au moment où le vent, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une opération un peu magique tout de même, puisque je tourne quand même aussi en extérieur, vraiment.
Pour provoquer ça, vous tournez pas n'importe où. C'est-à-dire que vous choisissez des lieux, que, comme vous dites, vous faites des films telluriques, mais vous choisissez des lieux plus que telluriques, ce sont des lieux volcaniques. Le Neuf Doigts était tourné aux Açores comme deux films auparavant. Comment vous choisissez ces lieux-là? Parce qu'il y a chez vous toujours cette idée, on le ressent dans vos films, de la recherche d'un lieu qui n'aurait pas été répertorié, quelque part une obsession des cartes, il y a tout ça. Et puis il y a des lieux dont on sent que c'est presque le centre du monde, enfin l'endroit où se rencontrent toutes les forces et où ça peut exploser à l'écran.
C'est-à-dire qu'en fait, les Açores, j'y suis pas allé tout à fait par hasard, puisque je préparais le film et je cassais les pieds à Paolo Branco, qui voulait pas m'y envoyer. J'ai dit, je vais aller aux Açores. Parce qu'effectivement, les Açores se trouvent à peu près au milieu de l'Atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est que c'est la rencontre des plaques continentales américaines, européennes et africaine. Et ça, rien que ça. Et c'est pour ça que c'est un peu la cocotte minute de l'Atlantique. Hein. Alors d'autre part, mais j'en ai déjà parlé souvent, il y a toutes ces histoires de courants qui m'excitent beaucoup, disons, qui m'inspirent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les courants aériens, c'est-à-dire que ça communique par les courants aériens avec les Bermudes. C'est-à-dire que, par exemple, une mouche des Bermudes est venue et a complètement anéanti les plantations d'oranges, par exemple. Et bien sûr aussi, alors, il y a plus ou moins question dans le film, il y a les histoires de courants marins. Et c'est vrai que, alors, quand on était sur le bateau, parce que quand j'avais sympathisé avec le capitaine qui était un Açorien, parce que je souhaite le seul cinéaste Açorien en Argentique, je veux dire. Et justement, c'est une zone intournable pratiquement pour des cinéastes conventionnels, parce que le temps change tout le temps. Mais vraiment, dans une journée. Et alors, au contraire, moi, comme je travaille plutôt sur l'instabilité, ça me convient assez bien.
Je te salue, vieil océan. Ô grand célibataire, tu es plus beau que la nuit. Réponds-moi, océan. Veux-tu être mon frère? allonge tes griffes livides en te frayant un chemin sur ton propre sein. Déroule tes vagues épouvantables, océan hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe prosterné. La majesté de l'homme est empruntée. Il ne m'imposera point. Toi, oui.
Alors reprenons peut-être, montons dans la machine à remonter le temps, repartons un petit peu aux origines de votre parcours, F.J. Ossan, qui vous mène, on part du Cantal, d'Aurillac, dont vous faites une des capitales magiques de l'Europe, la ville de Gerbert, le pape Gerbert, qui est un pape magicien, le Cantal étant un lieu lui aussi, non pas un peu comme mathématicien, un lieu un peu tellurique aussi, l'Auvergne avec ses volcans faussement éteints et ses ardeurs qui sommeillent, c'est un très bon point de départ pour vous. Ensuite, il y a eu Toulouse, ensuite Paris, puis alors après, une sorte de grande circulation planétaire qui vous amenait absolument dans à peu près tous les continents, avec trois pôles d'activité que je citais en ouverture de cette émission. D'abord la poésie, la musique et le cinéma. Mais chez vous, ça ne se succède pas. D'une certaine façon, ça se renforce. Ces trois modes d'expression qui se renforcent et qui s'accélèrent l'un l'autre.
Oui, j'ai vraiment commencé par la poésie. Donc ça a été vraiment, après mon premier accident de moto, à 14-15 ans, j'ai perdu connaissance, j'ai été hospitalisé. Et là, je ne sais pas, j'ai eu une connexion, comme ça j'en parle un petit peu au début du petit livre que j'ai fait sur William Burroughs. Tout a changé. Mais alors c'était, et alors Artaud, d'un seul coup, m'a complètement hanté. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu d'autres, mais vraiment, Artaud, c'était quelque chose qui me semblait absolument cardinal, quoi. Et donc, bon, la poésie, puis ensuite... très vite est arrivé l'insurrection punk, on pourrait dire. Et j'aurais pas fait de musique sans ça, mais parce qu'il y a quand même quelque chose de comme ça, un peu classiste quand même dans le monde littéraire, et puis les éditeurs. Et là, d'un seul coup, finalement, il y a eu ce grand brassage quand même qui était le punk, en fait, même si c'était très minoritaire, hein, on était peu nombreux. Mais je veux dire, pouvaient se retrouver des gens entre le fils de l'aristo dégénéré, le prolétaire du canal de l'Ourcq comme Elnaud, et tous ces gens. Oui, il y avait une fraternité combattante, on pourrait dire. Et par exemple, Elnaud était quelqu'un d'ouverture d'esprit prodigieuse, hein, quand j'étais avec les Lucrates. Et alors, bon, la musique a commencé vers 77-18, au même moment où j'ai fait la revue C, qui s'est trouvée être prise ensuite par Christian Bourgois, et qui a duré jusqu'en 79. Et en 80, j'ai démarré mon deuxième groupe, MKB, Fraction Provisoire. Et en 81, les films, 82, mon premier film, La Dernière Énigme. Mais en fait, disons que j'ai commencé à faire des films, n'étant pas du tout de ce milieu-là, j'ai surtout découvert à l'école qu'on pouvait faire, il suffisait d'une boîte de pellicules. Ben oui, j'ai passé le concours, je l'ai eu, et j'ai découvert qu'il suffisait d'une boîte de pellicules et d'une caméra muette, éventuellement. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, au lieu de track, j'ai fait un film tract, 2 mois après la rentrée, qui s'appelle La Dernière Énigme. Et qui est librement inspiré de Gianfranco Sanguinetti, du terrorisme et de l'État. Et puis ensuite j'ai fait Zona Incunata, et puis c'est parti. Mais disons que peu j'étais à 23 ans, c'était vraiment No Future entre le Noise and Roll et la poésie. Et puis il y a eu les cinémas. Alors bien sûr j'étais complètement fou d'Eisenstein, que j'appelais Sa Majesté Eisenstein, SM Eisenstein. Et donc, mais comme je ne suis jamais devenu un réalisateur établi, vraiment, on peut dire...
C'est quoi un réalisateur établi ?
C'est quelqu'un qui, disons, reste le pied à l'étrier, vous voyez, qui arrive à travailler, on pourrait dire. Alors que moi,
pour vous, ce serait l'être établi, ce serait l'horreur.
De toute façon, ça n'était pas possible, puisqu'en fait, à chaque film, j'ai eu des traversées du désert de 7 à 10 ans. Donc j'ai fait 84, j'ai fait Morituri, je me retrouve en 91, arrive enfin, sort Les Chiennes, dont personne ne veut bien sûr. Coup de chance, c'est pris à Belfort, et puis un fou du nom de Strauss fait 8 pages dans les cahiers. Donc ça nous a sauvés, sinon c'était terminé. Le film était en cinémascope, noir et blanc, donc à l'époque c'était le premier film, et de Darius Conji à la photographie, et de Jean-Vincent Puzos, comme moi, natif du Cantal, qui est depuis lors devenu un très grand décorateur, lui aussi, puisqu'il a fait Lord of War avec Nichols. Ils se sont retrouvés ensemble pour Lost City of Z, etc. Enfin, eux ont réussi, et moi j'ai continué comme ça, par les chemins de traverse. Et après, on se retrouve en 98, où sort Dr Chance, qui est tourné au Chili. Et alors, après, je me suis retrouvé à plus pouvoir faire de films du tout. Donc, après, un copain de Lisbonne m'appelle, Antonio da Camara, me dit, oui, voilà, tu sais, je m'occupe d'un truc qui s'appelle tant d'images avec Arte, c'est un petit festival qui confronte, c'est un festival dans différentes villes d'Europe qui confronte les arts de la scène et de... et les arts visuels. Alors donc par exemple un vidéaste et un metteur et un, du théâtre. Et j'ai fait comme ça ce Silencio qui s'est retrouvé à avoir le prix Jean Vigo, que j'ai tourné avec 9 boîtes de pellicule 16 mm, avec 3 personnes, avec Elvire, Antonio et un opérateur. Mais je, parce que j'ai absolument refusé de faire en numérique, et donc on a fait le film, au départ on avait juste 8000 euros. Et c'est là que j'ai ensuite pu refaire Dharma Guns. Donc ce qui fait que, et après 7 ans de roue, et à nouveau, puisque j'ai quand même mis 4 ans à faire ce film, en ayant l'avance sur 7 quasiment, puisque je suis l'avance sur 7 avec la dernière commission de Paul Tchaïkovski-Laurent en décembre 2013, et le film ne sort que maintenant, terminé en septembre, enfin en août, puisqu'il était à Locarno. Donc voilà comment une vie se passe en pure perte. Ayant ces trous, ces traversées du désert, c'est vrai que je suis toujours revenu à la musique, au rock and roll, au noise and roll, ou à la poésie, qui sont finalement... voilà. Et puis les films sont comme ça des épreuves totales, où après je m'éteins. Donc il faut que autre chose me rallume, puisqu'en général je finis épuisé. Voilà.
On vient d'assister à cette grande chevauchée créatrice et créative avec vous, F.J. Ossan. Mais alors, ce qu'on peut reconnaître, c'est que, je dirais, vos thèmes et votre vocabulaire esthétique, graphique, cinématographique, a été fixé très tôt. C'est-à-dire le noir et blanc argentique, avec un cinéma qui creuse la noirceur et qui exalte, la clarté jusqu'à ce qu'elle devienne aveuglante. Et puis des éléments sensibles, je ne vais pas faire de la critique bachelardienne, mais presque, l'eau, qui est une puissance quand même inquiétante, un peu négative, qui à la fois submerge, ronge, porte les gens en même temps, la nuit qui est omniprésente, la pierre, vous êtes quand même un grand cinéaste de la minéralité, avec des arcatures en béton, avec des îles volcaniques, et puis les poutrelles métalliques, donc c'est plutôt un univers du heurt, du choc, de la structure et de la confrontation. L'élément naturel, l'humus, la plante n'apparaît pas chez vous. Chez vous, on est vraiment dans un univers de main d'homme, mais un univers totalement à la fois menacé et violent.
Moi, j'aime vraiment les zones de choc. Alors, ce que j'aime, les zones de choc, par exemple, c'est vrai que quand j'ai débarqué à Vladivostok, juste après Silencio, j'avais été invité par les Russes, comme ça, et pour faire un court-métrage avec des étudiants, dans le cadre du masterclass qui s'appelle Vladivostok. Alors là, j'ai eu un satori, quoi. Et alors, c'est une extraordinaire zone de choc, je trouve. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait peut-être 3000 équipages qui squattaient les bateaux, puisque c'était l'ancien.
Un des plus grands ports militaires du monde,
voilà.
De la Russie pacifique.
Voilà, qui était interdit jusqu'à... qui était une cité interdite jusqu'en 1992, je crois. Ensuite, les militaires sont installés les plus hauts. Alors, ça, c'est une ville incroyable. Mais qui se trouve donc à la frontière de la Corée du Nord, de la Chine quasiment, avec un décor un peu de montagne, un peu à la Vosgienne, je sais pas quoi dire, ce qui est très belle. Hein.
Oui. Le Cantal.
Non, parce que j'ai découvert, c'est la première fois que, disons, que j'ai vu, disons, plastique, graphiquement, oui, des choses qui ressortaient d'estampes ou de peintures. En fait, c'est vraiment des décors asiatiques, mais incroyables. Hein. Alors, on est allé à Sidimi. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des zones écologiques, on pourrait dire, qui sont beaucoup plus, comme on n'en connaît aucune en Europe, maintenant, parce que toute la nature est absolument artificielle, puis c'est la queue de la Sibérie. Mais j'aime beaucoup, disons, cette chose entre l'activité industrielle ou pas, puis c'est des portes de guerre, les usines, les centrales, et à la fois la nature exubérante, et au contraire, dans mes films, il y a beaucoup de nature, je crois.
Oui, mais c'est pas une nature, je dirais, au sens tropical humide. Enfin, il y a pas de fleurs, il y a pas d'arbres. Enfin, il y a plus les arbres, ce sont des éoliennes. Les champs, ce sont des débarcadères militaires. Et la mer, elle est inquiétante.
Oui, mais c'est vrai que l'eau m'a toujours fasciné. Et la mer, et le désert. C'est vrai que tout ça, c'est des apprentissages. Alors moi, je suis né plutôt dans les zones montagneuses. Et c'est vrai que je m'attire par le vide. C'est vrai que je suis attiré par le vide, donc et par le désert et par la mer. Et c'est vrai que le désert, au départ, j'ai complètement flippé, disons, quand je me suis retrouvé à Iquique, au nord du Chili. Et puis après, parce que c'est tellement aride, c'est un désert, c'est le deuxième désert le plus aride après le désert de Gobi. Et c'est vrai, mais après, quand on tournait avec Strummer, c'était, le film a vraiment démarré là. Alors, en plus, c'est drôle parce que les Indiens, ils adorent la musique très métallique, comme ça. Alors, sur les radios, c'était incroyable. On avait la voiture de 400 jours. C'était extraordinaire.
Moi, je voulais revenir sur un élément de votre folle échappée là, que vous venez de nous faire, sur la question du numérique que vous refusez. Et c'est vrai que maintenant, tourner un film en argentique, ça devient un choix onéreux, mais un choix artistique très fort. Et c'est vrai que quand on voit vos films, on a un peu le sentiment, vous parliez de choc et de confrontation, que c'est la confrontation de la lumière et de l'obscurité, et que vous faites vos films comme d'autres font de la carte à gratter, c'est-à-dire que vous sculptez dans la matière noire pour faire ressurgir comme ça des moments de lumière, et que c'est sans doute dans l'argentique, ce qui vous intéresse, c'est cette transmutation, enfin, du sel d'argent qui va se noircir à la lumière et qui, en négatif, donnera à voir cette lumière. C'est pour ça que vous refusez le numérique.
En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que d'une part, disons que j'ai écrit ce livre Mercure insolent parce que bon, on m'avait demandé d'écrire autour du cinéma. Qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma comme ça ? Et puis je me suis aperçu qu'on était en train d'éradiquer la pellicule et en fait tout ce qu'ils appellent le cinématographe. Et d'un seul coup, j'ai été révolté par l'immense mensonge et technique et économique qui entoure cette affaire. C'est absolument faux, puisque j'ai fait un film de 350 000 francs qui s'appelle Morituri. Et c'est absolument... Alors que maintenant, les gens ont 3,5 millions qui disent « Oh, tu sais, on n'avait pas d'argent. On n'a pas pu se payer l'argentique. » Alors, heureusement, la reconquête est en route. Alors, j'ai rien contre la vidéo, mais c'est vrai qu'entre la vidéo, entre le numérique, disons, c'est différent, entre le numérique et l'argentique, le numérique, c'est un cinéma de capteurs. Tandis qu'il n'y a pas de réalité ni physique, ni optique, ni chimique. Alors que c'est quand même fascinant, cette histoire de lumière qui grave comme ça la matière femelle, le soleil qui grave la matière femelle de la pellicule chimique, mais qui l'imprime. Mais au départ, j'étais pas porté à ça, puisqu'en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement... Alors je peux admirer de grands photographes, des photographes, il y a des photographes qui me traumatisent, mais en fait, je ne m'y attarde pas tant que ça. Ce qui m'a toujours fasciné, moi, c'est l'image mobile. Et donc, la question de l'image mobile, c'est de faire rentrer la réalité dans un cadre. Mais je fixe, mais surtout. Et donc, moi, j'ai démarré par la vidéo dès les années 80, ou même les tout premiers concerts d'MKB, on avait même des projections en même temps dans les concerts. Et puis après, on a dit, non, on ne peut pas tout faire en même temps, hein, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, on est revenu vraiment à quelque chose de plus primitif et tribal. Mais, disons, quand je suis rentré comme ça, par accident, à l'IDEC, je me suis retrouvé, j'étais beaucoup plus marqué, disons, par Révolution électronique de William Burroughs ou par toutes les techniques de détournement préconisées par l'international situationniste. Et là, j'ai découvert, donc j'ai fait ce film en un jour, donc pour rien, qui s'appelle La dernière énigme. Et là, j'ai basculé, parce que d'un seul coup, je filmais des statues, je filmais l'Arc de Triomphe, la circulation, et ça y est, j'étais... c'est vrai que, comme je répète, je recite toujours Grac, il dit que le cinéma a instinctivement été inventé parfaitement, c'est le noir et blanc et en muet. Alors, bien sous-entendu, bien sûr, on peut rajouter ensuite de la couleur et du son. Et c'est vrai qu'en 22, toute la rhétorique est déjà fixée. Donc en 20 ans, le cinéma avait trouvé sa voie parfaite. Et donc maintenant, nous sommes les 100 ans plus tard, quoi, on est encore là, mais... Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui adorent le numérique parce que ça les libère un petit peu d'une certaine tyrannie des techniciens. Alors je sais qu'il y a des vieux réalisateurs qui adorent ça. Alors quand je serai vieux, je ferai du numérique.
Thank you.
Alors, la phrase que je citais en ouverture, qui est tirée de votre recueil poétique Venezia Centrale, il y a urgence et nous sommes seuls, définit assez bien votre univers. L'univers urgent, au sens l'urgence, une espèce de fébrilité, de frénésie, comme ça, quasi extatique, effectivement. L'urgence, puisqu'il ne faut pas perdre de temps, puisque la grande menace est là, puisque le chaos menace, puisque, effectivement, la mort est imminente. Et nous sommes seuls. En définitive, les personnages que vous filmez, même s'ils sont liés par des contrats, des tractations, par des amours, c'est quand même des grandes figures de solitude. Donc, c'est peut-être ça les deux pôles de votre univers, là. Une espèce de solitude fondamentale de l'individu, et puis le sentiment de la menace de mort.
L'urgence et l'ennui. Les deux, à la fois. Et la mort qui fait le lien entre les deux, on pourrait dire. Parce que c'est vrai que c'est Céline qui dit qu'il faut mettre les tripes. Ouais, sans la mort, c'est pas authentique. Mais c'est vrai que la mort, est, quand on vieillit, effectivement, c'est angoissant. Et, mais à la fois, quand on est jeune, c'est une porte toujours de sortie. Et donc, c'est ce qui vous donne du courage et de l'audace. Parce que si je suis coincé, je prends la tangente. Mais en réalité... Et puis c'est vrai qu'il y a l'énigme du temps, toujours un peu dans mes films, mais c'est vrai que je ne sais pas comment on fait tant de choses quand on est jeune, et le temps est long, et puis ensuite après, il y a un moment où l'ennui disparaît, c'est-à-dire qu'on s'ennuie quand on est tout jeune, enfin, je sais que moi ça a été l'école, tout ça, tout le temps de l'école, c'était affreux, et puis dès que j'ai commencé à faire l'école buissonnière avec l'université, là tout était excitant, c'était le punk, tout était puis c'était des années quand même très très captivantes, disons, entre le punk, la musique industrielle, la grande liquidation. c'était chouette, comme dirait Vince Taylor. Et alors ensuite, après, et puis je sais pas, oui, on sent que j'ai senti tout de suite qu'il fallait aller vite, et je pense que il faut aller vite. C'est-à-dire qu'on entreaperçoit, on a les vraies intuitions entre 14 et 24 ans, quoi. Et ensuite, après, tout le monde vous raconte des conneries. Et on peut avoir tendance à perdre l'objectif. Et je dis toujours, quand je déjeune, c'est là qu'il faut vraiment s'alimenter absolument. Et toujours essayer de ne pas se perdre le souvenir de ce qu'on a entrevu. Et alors, je ne sais pas comme ça, je me retrouve maintenant 60 ans. It's not my fault.
Alors justement, vous parlez d'une révélation. Alors, qu'il y ait chez vous un accident de mobylette?
Non, de moto.
De moto, pardon, excusez-moi, j'allais réduire la voilure. Un accident de moto qui est en même temps une forme de satori, une forme de révélation un peu extatique à sa manière. Et alors, dans cette période, c'est ce que disait Malraux, on achète tout entre 10 et 18 ans, je ne sais plus, et après, certains n'achètent rien. Enfin, c'est le moment où il faut investir fortement son existence et sa pensée. Alors, vous, quelle a été votre révélation à ce moment-là? Est-ce que, justement, ce sentiment de l'urgence, de la mort, est-ce que tout ce qui est la matière noire de votre univers, vous avait eu à ce moment-là dans la jeunesse?
L'ennemi, c'était la durée sociale. Alors j'ai tout fait pour effectivement ne pas travailler ou être vraiment out of order. Hein. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me détruisait, quoi. M'aliéner, voilà. Et... Alors, donc j'ai eu cet accident, c'est vrai, mais disons que j'étais entre les mathématiques, je le raconte dans la préface, mathématiques, latin, rock and roll. et là, la poésie est vraiment arrivée. Oui, c'est vrai que Mercure du Rhin-Solon aussi un petit peu, le sujet c'est un petit peu la poésie active du cinématographe, disons. Parce qu'en fait, il y a des, bien que ça soit, la poésie c'est la poésie, le cinéma c'est le cinéma, le noise and roll c'est le noise and roll, il y a des points de passage entre tout ça. Alors non, je ne saurais pas dire, parce que Révélation ça n'a pas été quelque chose de mystique. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pu t'être intéressé que par l'écriture. Et donc je disais aussi que la revue C est un peu une usine à texte. On a publié justement Le Temps des Assassins de William Burroughs la première fois, où il y a Pellieu, où il y a Rodansky qui a été capital aussi. Ouais. Parce que je suis sans doute aussi un cinéaste rodanskien. Oui. Qui est vraiment un génie, qui est mort en 80.
Toi, Arnaud poète surréaliste, qui a fait l'essentiel de sa vie dans un hôpital psychiatrique, où il s'était retiré, où il n'avait pas été interné. C'est quasiment une retraite, un peu la Charles Quint.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un surréaliste tardif. Je crois qu'il a été abandonné par sa mère sur les routes d'Allemagne, à la fin de la guerre. Lui, son père étant d'origine juive, elle était partie avec, je crois, légende ou pas. Et alors, après, il vit à 2000 à l'heure, disons de 44 à 54. Et il écrit des textes incroyables. Alors lui, donc, c'est vraiment la génération tardive d'après-guerre. Il est exclu en 48 pour travail fractionnel, en même temps que Jouffroy, qui était notre voisin, là. Voilà, Jouffroy. Ils sont tous les deux exclus en même temps. Et puis finalement, il va rentrer à un hôpital psychiatrique définitivement en 54. Avec des foucaderies, il s'est engagé dans la Légion, je crois, ou dans une force spéciale. Alors il y a Hérol qui dit, mais non, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, vous avez raison, j'ai eu tort. Et donc, La victoire à l'ombre des ailes, qui est un livre magnifique, paru en 75, qui a été vraiment un choc, qui est plutôt, qui joue comme ça, justement, sur les genres, hein, sur les genres littéraires, puisque c'est La victoire à l'ombre des ailes, c'est entre romans d'espionnage exotiques, les vaïnés qui passent, les jets piégés, voilà.
On voit à quel point, d'ailleurs, vous avez été influencé, marqué durablement par ce livre, aux éditions du Soleil Noir, qui était vraiment un grand événement de la dernière partie de l'histoire du surréalisme.
À la fois, oui, non.
Jean-Pierre Dupré, des gens comme ça.
Bien sûr, oui. D'où on a, la revue ça, on a publié des textes. On a fait un spécial en 77, et dans chaque numéro, il y avait des inédits de Rodansky. Mais en réalité, la moitié du tirage a dû être écoulé en solde, je crois. Parce que disons que c'est beaucoup plus que disons les surréalistes de d'après-guerre. C'est vraiment un météore, disons Rodansky. C'est vraiment un auteur de toute première importance.
Moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur le processus d'écriture de vos films, parce qu'il me semble que le dernier est très parlant de ce. Comment vous travaillez et de où vous nous emmenez. Le film commence comme un polar nocturne, on trouve un cadavre, il y a de l'argent dedans, il y a des gangsters, on part ensuite dans l'aventure maritime, dans la cale d'un cargo, et puis après on part, on ne sait plus trop où, on est dans ce nowhere land, ce pays de nulle part, pris dans ce maelstrom, et tout d'un coup, la narration part dans une sorte de rêve un peu métaphysique. On a ce sentiment, et je crois qu'il y a même un personnage qui dit à un moment, ne rien comprendre, c'est la clé. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur cette phrase qui, moi, m'a toujours frappé dans vos films, c'est qu'à un moment, l'intrigue ne compte plus. Ce qui compte, c'est les personnages, c'est presque la sonorité des phrases qui compte bien plus que le sens même qu'elles ont. Et il y a chez vous un talent pour l'onomastique dans l'invention des noms, mais aussi dans les titres. C'est-à-dire, il y a des promesses extraordinaires que vous nous faites, le trésor des îles Chiennes, l'affaire des divisions morituriques, qui pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à enfin pouvoir voir ce film, et je l'ai rêvé mille fois avant de le voir à cause de ce titre. Alors comment est-ce que vous partez dans cette écriture en faisant surtout attention que finalement le spectateur peut-être ne comprenne rien, mais en même temps est tout vécu?
Oui, non, ça ne veut pas dire exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, comprendre, c'est comprendre. Mais je l'ai laissé au montage, je me disais à tous les coups, là j'ouvre une vanne et tous les ennemis vont se ruer par là. Il y a un moment dans ce monde qui est finalement si opaque et déréalisé, il y a un moment il faut refuser de comprendre, de ne pas prendre des choses avec soi. C'est comme l'économie, il y a 36 000 théories qui sont juste des portes d'aliénation qui s'entassent et qui se verrouillent les unes après les autres. Et bien sûr, après on est réduit à l'inaction. C'est un petit peu ça, puisque ça intervient à un moment quand le personnage se dit « non, là... ils me prennent la tête et ils l'envisagent comme ça, puisque c'est un homme perdu, mais qui finalement est prêt à tout accepter pour et qui s'embarque donc, qui devient un peu otage, et puis complice de la bande. Mais alors ce film, parce que tous mes films sont effectivement quand même parlants, mais la voix, les paroles interviennent différemment. C'est-à-dire qu'il y a des films où, par exemple, la voix off peut être intéressante. On m'a l'a reproché, alors que je trouve que c'est parce que c'est les Français qui savent pas faire, qui savent pas utiliser en général la voix off. Mais sinon, c'est prodigieux, parce que ça permet de faire un cinéma en toute liberté, disons, sur le plan visuel, quoi. Et puis voilà. Alors, pour ce film-là, ça sert encore autre chose. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens, moi, m'excitent, m'inspirent. Donc, il y a un petit peu trois mouvements dans le film. D'abord, on commence dans le film noir, à la Melville, que j'aime de plus en plus. Et puis ensuite, on passe dans le récit d'aventure maritime. Là aussi, c'était le retour aux sources. Et puis après, dans le gothic. Voilà. Et à la fois, c'est amusant ce que vous dites, parce que j'adore, il se trouve qu'il y a cette grande exposition, mais j'adore le journal de Delacroix. Et Delacroix, qui est un pur génie, a trouvé, tout en étant passionné de littérature, trouvait que, quand même, la peinture était tout à fait supérieure à la littérature, parce qu'elle n'était pas réductible à une histoire. Et c'est vrai que je pense que c'est mieux de rêver, de faire un film qui rêve l'histoire, plutôt que de faire un film qui raconte l'histoire, qui est un peu con, finalement. dans notre époque, dans la mesure où, quand j'étais tout jeune, j'ai pensé qu'il fallait faire des films comme des musiques. Parce que je pense que de toute façon, il y a quand même un peu une vocation opératique dans le cinéma. Et puis, mais c'est vrai qu'on n'est pas crispé. Alors je pense que les gens ne regardent pas bien les films, quelquefois. Parce que quand on écoute, que ce soit de l'opéra ou de noise and roll, on n'est pas crispé sur « Ah, j'ai pas compris le troisième verset hein, ». Que ce soit un livret d'opéra ou les Sex Pistols. Et on est emporté. Et justement, je cite toujours ce film qui, pour moi, est un de mes films de référence, qui est enfin le film que j'ai vu 48 fois, et notamment 3 fois en une seule après-midi, qui est, j'étais en période peu neurasthénique, je voyais Mr. Arcadine, je buvais deux gin tonic, je renvoyais Mr. Arcadine, je buvais deux gin tonic, je renvoyais Mr. Arcadine. Et je perdais pied tout le temps. C'est un film qui est avec, je sais pas si c'est un film dans la forme tellement forte. Et alors, on a emporté, mais alors, j'ai encore rien compris, je reviens le voir. Et en fait, on perd pied. Surtout, en plus, ce serait Wells, ce génie de raconter tout et son contraire, de dire tout et son contraire. Donc, à un moment donné, il dit, oui, c'est un film sur Staline. Alors, je ne comprends plus rien du tout, mais c'est un peu vrai, effectivement. Mais bon, voilà. Mais donc, voilà, je pensais qu'il fallait faire des films, puisque la vidéo commençait à apparaître au début des années 80, qu'il fallait des films qu'on puisse voir et revoir.
C'est de la merde!
Allez, on ouvre ça, là.
Du Mariat à l'Elseneur. Du Mariat à l'Astrolabe.
Mariat au Terschelling.
Adresse morte. C'est un vaisseau fantôme. Ne jamais accepter de courrier d'un vaisseau fantôme. Le clouer au mât, disent les préceptes.
Nous sommes faits.
À moins de tout brûler.
Je ne saisis pas, le Mariat serait un vaisseau fantôme.
Pas le Mariat. Pas le Sri Ahmed Volkesson 5. C'est le Nowhereland lui-même. L'île dérive incessamment. Ses dimensions ne cessent de grandir. Regardez, nous transportons ces containers en guise de courrier. Si nous ne faisons rien, nous risquons de tourner définitivement autour de cet atoll de plastique et de cendres. Et finir par y descendre pour toujours. Nous sommes possédés. Le Mariat est fait et refait.
Vous suggérez que le Nowhereland est un vaisseau fantôme ?
Exactement. Le Nowhereland n'a pas de racines terrestres. On ne cesse de tourner autour. C'est comme une aimantation.
Mais ce cargo...
Ce navire, quel que soit le nom qu'on lui donne, Mariat, Sri Ahmed Volkesson 5, n'est qu'une épave secondaire.
Qu'est-ce que vous le dites à ce moment-là à vos comédiens qui peut-être vont vous dire à un moment oui, ben là, je comprends pas trop ce qui se passe, où est-ce que tu nous emmènes, est-ce que vous dirigez vos comédiens, est-ce que vous les mettez là surtout comme des objets graphiques et produisant des sons plus que comme des narrateurs d'histoire précisément?
Ben, disons qu'en fait alors que je ne viens pas du théâtre, donc ils sont quand même des gens de théâtre, sont des spécialistes des comédiens. Moi, je viens du rock'n'roll, mais j'ai quand même vraiment pratiqué, je sais pas comment dire, donc je sais ce que c'est que l'angoisse, je sais ce que c'est que le trac, et puis je sais que de toute façon, ce que j'ai tout de suite compris, c'est que ça servait à rien d'être tyrannique, puisque de toute façon, c'est leur corps à eux. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu toujours, presque toujours, d'excellentes ententes avec les comédiens, qui d'ailleurs sont venus, c'est faux cette idée de dire qu'ils sont... plus corrompus que les techniciens. Hein, parce qu'on dit, oui, il coûte tellement cher, au contraire. Vraiment, ça n'a jamais été un problème. Alors là, j'ai eu la chance, cette fois-ci, d'avoir une jeune génération qui est venue d'elle-même presque vers moi. Mais c'est vrai que de toute façon, on a un intérêt objectif commun. C'est quand un film est raté, le réalisateur et les comédiens sont déshonorés. Donc ce qui fait que c'est de toute façon un combat. Mais les acteurs, quand même, sont souvent des animaux. C'est-à-dire qu'ils veulent du texte à manger, ils veulent... des actes à accomplir, ils veulent de la photographie et qui trouvent le cerveau. Donc on s'amuse beaucoup, en fait.
On pourrait poser la même question à Elvire, puisque justement, quand on travaille dans un film FJO 100, comment est la direction d'acteur, quel est le climat du tournage, comment lui-même est métamorphosé ou pas par le tournage, et puis comment dirige-t-il les personnages qui apparaissent et qui prophétisent dans ces films?
De toute façon, la première chose, c'est connaître le texte par cœur. Ça, c'est primordial. Et une fois que vous connaissez le texte, vous vous retrouvez dans un décor, donc vous regardez le décor. Évidemment, vous n'allez pas jouer s'il y a un siège, on s'assoit. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Et je crois qu'il dirige, il essaye de ne pas bloquer chaque personnage, en essayant de leur montrer que c'est pas un texte facile, mais c'est un texte presque, oui, poétique. Donc comment dire un texte poétique sans rien, voilà. tout naturellement. Alors là, c'est le plus dur. Donc il y a des gens qui disent waouh, c'est magnifique, comment vous faites, ou d'autres qui disent non, ça m'emmerde, ça ne m'intéresse pas du tout ce jeu, vous jouez très mal. Non, c'est faux, on joue pas. Nous sommes avec un texte qu'il écrit et qu'on doit habiter avec costume et décor. Voilà.
C'est vrai que là pour ce film, oui, parce que de toute façon, là, comme tous mes personnages sont un peu archétypiques, donc ils sont tous différents. Donc il y a des, c'est vrai que chaque personnage et chaque acteur sont différents. C'est-à-dire qu'entre, disons, Pascal Grégory, et puis Elvire, et puis Gaspard Huliette, tous sont différents, ou au contraire, Paul Amy, Damien Bonnard. Mais là, ce film était différent. C'est-à-dire, comme c'est un peu un retour aux origines, aux sources. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu la passion des récits d'aventure quand j'étais jeune. Alors, notamment le Capitaine Marryat, Edgar Poe. Alors maintenant, tous les étés, je relis Edgar Poe, comme certains relisent.
On précise qu'Edgar Poe pend du plafond, littéralement. C'est-à-dire que
ah oui.
Il y a trois portraits d'Edgar Poe pendus au plafond, au-dessus d'un petit cercueil où est écrit discussion avec une momie, voilà, je précise pour ceux qui n'ont pas l'image.
Voilà, donc c'est Edgar Poe qui est vraiment un génie pour moi absolu. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis revenu vers Baudelaire, parce que bon, la poésie, on s'est enseigné, mais la poésie de Baudelaire, et puis quand j'ai découvert la prose de Baudelaire, alors là, ça a été, d'ailleurs, ça m'a aussi amené comme ça à Delacroix, d'ailleurs, ou Conrad. Et alors, pour ce film, il fallait que je me suis dit, bon, ça va peut-être être le dernier, je vais faire un film de bateau. Alors c'est logistiquement, c'est un enfer. Donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pas eu énormément de budget, mais j'ai beaucoup de chance. C'est pour ça que je continue à faire des films. Et donc j'ai essayé de monter des dispositifs de façon à ce que le film soit possible, effectivement. Puis il y a des huis clos, comme ça. C'est entre le film de science-fiction un peu à l'envers, je dis. Et là, c'est la première fois que j'ai vraiment écrit, on pourrait dire, des dialogues. Vraiment, voilà, comme ça. De façon à ce qu'on puisse, comme ça, tirer de grandes bordées, voilà. Et à part ça, bien sûr, après, je disais, mais le cinéma, c'est quand même toujours une épreuve. On ne sait pas si ça va marcher. On tire des lignes, c'est un mode d'expression aveugle, puisqu'on aperçoit, mais en fait, moi, je ne vois jamais les rushs. Je n'ai pas le temps, et puis ça me déprime en général, parce que je n'ai pas le temps de revenir 1500 km en arrière. Bon, alors en avance, on trace, et alors donc, c'est dans la tête, je crois qu'il nous manque ça, oui, ça, oui. Et puis d'un seul coup, on improvise autre chose. Une scène qui devait se tourner dans une salle d'armes, on la tourne dans une cuisine, mais là aussi, ça, c'est le texte, chaque fois, qui nous sauve. Et donc, on est tout le temps obligé d'improviser. Par exemple, la scène avec l'autre amant, je trouvais que ce capitaine que je voulais qu'il soit fantasque, comme ça, il bondisse, comme ça, grande zambardée, il apparaisse comme ça de façon fugitive, il me manquait quelque chose. Alors, comme ça, j'ai vite fait un montage un soir au Vieil Océan, c'est en fait un montage. Et puis, j'en parle à Diogo Doria, qui est un grand acteur portugais, qui a fait 14 films avec Oliveira, etc., et qui a un grand diseur de poésie. Oh, formidable! J'avais envie de manger du mal d'aurore. Et après, on l'a fait en 10 minutes, quoi. Une prise, deux prises, trois prises, pour me dire la chose. Et l'arrivée, c'est extraordinaire, parce que je trouve que ça vaut une tempête. C'est comme un effet spécial. Et mal d'aurore était là.
L'histoire commence où tout paraît finir. Zelda devait rentrer de Barcelone avant la nuit. On se serait quitté pour toujours, à la fin de l'aurore. Sauf que le cinéma opère comme la magie blanche.
Georg est incroyable, un vrai pharmacien. Toujours à la recherche du vrai mélange. Le K-128 fait miracle pour l'endroit où on part.
Tu vas avoir mal.
Victory Lane, c'est un anagramme de Vince Taylor.
Tous les films sont quand même différents, puisqu'en fait, c'est vrai que je commence avec une petite trilogie, avec La Dernière Ligne, Zone Incunata. Alors, La Dernière Ligne, qui est un film tract, Zone Incunata, qui est une espèce de compression de film noir, où il y a le vaisseau fantôme, etc. C'est un film tourné en 3 jours, en 16 mm. Après, Morituri, qui est une espèce d'un péplum futuriste du quart monde. Et après, Les Chiennes, qui est quand même un film d'aventure intérieure, de science-fiction minimale, on pourrait dire. Après, Docteur Chance, qui est plutôt une espèce de thriller road movie, et à la fois un tombeau des modernes. Et 1905, Oui, c'est un film punk de l'âge classique, comme j'avais expliqué à Joe Strummer. Et Simon m'a dit, tu l'as fait. Et ensuite, Darmagun, ce qui est plutôt un film gothique minimal. Voilà. Et oui, le triptyque, alors là, c'est le retour à zéro. Bon, hein. Voilà, donc Silencio, c'est plutôt vraiment retrouver un peu l'enfance de l'art, vraiment filmer pour voir. Hein. Et puis, Si elle éteint, les deux films que j'ai tournés en Russie. Et puis enfin, ce dernier qui est quand même un film de bateau, un film d'aventure maritime.
De cargo.
Ouais, de cargo. Un film noir. J'aime bien Neuf Doigts. Nine Fingers.
Alors, y a-t-il une journée type de FGO? Est-ce que votre emploi du temps quotidien est aussi bien rangé que votre bibliothèque?
Non. C'est toujours un peu chaotique. Parce que déjà, je fais beaucoup de cauchemars. Et puis, je sais, oui, oh, bah, c'est vrai que Paris, j'y suis pas tout le temps, hein, assez peu même, on pourrait dire. Parce que c'est vrai que j'ai besoin d'être un peu en exil toujours pour écrire. Et puis, j'aime bien voyager, ne serait-ce que pour ne pas entendre le français. Comme ça, je peux rester plein d'aménité, sans aménité pour notre pays. Et de sortir d'une actualité. Donc, je sais pas. J'aime bien écrire, comme ça, en entendant d'autres langues.
Voilà. Quand est-ce qu'il est venu le nom au sang? Est-ce que c'est avant ou après l'accident de moto?
Oui, puis là, il y a des commentaires qu'on peut lire sur Internet, comme quoi il s'agirait d'une citation biblique, que c'est plus un nom de guerre qu'un patronyme d'état civil.
Ça, quien sabe, hein, comme dirait William, quien sabe. Non, c'est... Oui, c'est vers 14 ans, oui, que Ossan s'est levé. C'est « Je solidifierai mon sang, j'en ferai de l'os ». Ça, en fait, c'est Babylone.
Vous êtes un cinéaste babylonien.
Sometimes.
Avec son moto, c'était quand? C'était quoi, accident de moto? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, c'est une histoire simple. C'est-à-dire que on m'avait prêté une moto, j'avais pas le permis. Et donc, c'était la nuit. Et normalement, c'était une route où on faisait presque des essais de vitesse. Et là, manque de chance, ils avaient coupé la route pour prolonger l'aéroport. Et là, j'ai vu deux voitures surgir, une à droite, une à gauche. Et donc la voie qui était... Et j'ai une chance incroyable parce que j'ai heurté la première voiture. Je suis parti quasiment à l'horizontale. Et j'ai heurté avec le crâne un pneu. Et je me suis retrouvé les pieds sur le toit. Et c'est vrai que c'est après, c'est resté, j'en parle un petit peu encore dans cette petite préface à Burroughs, parce que je me rappelle, je sais pas, les lumières, l'odeur d'essence, les bruits de verre. Et donc j'avais, comme j'avais pas de casque, j'avais perdu une chaussure, donc j'avais les pieds et les mains déchirés un peu. Mais j'étais en caoutchouc, donc I survived.
Et Vieux-San, prochain film, ou prochain livre, ou prochain disque, ou prochaine idée, prochaine folie, prochaine fureur, prochain assaut, prochain objectif, prochaine.
D'abord, je pars en Espagne pour faire une espèce de tour de 6 villes, puisqu'il y aura une rétrospective à la Filmoteca Española. Et donc, je vais aller à La Coruña, à Barcelone, à Gijón, à Santander.
Vous appelez ça un soleil?
Madrid, etc. Et le film sort le 20 avril en Espagne. Et puis, j'aime bien me réinventer après chaque film. Donc, oui, je reviens toujours à l'écriture. Et alors c'est pour ça que j'espère que le film va se maintenir un petit peu, parce qu'on prête qu'aux riches, n'est-ce pas, hein. Donc, bien sûr, oui, le cinéma, toujours. Mais c'est vrai que là, j'ai mis quand même 4 ans à faire le film, quasiment. En ayant déjà eu part de financement, donc c'est toujours un peu... Ben oui, mais j'ai très envie de me lancer peut-être un peu dans la couleur à nouveau. Comme Docteur Chance. Ouais.
Merci à Elvire et merci à FGO Ossan de nous avoir accueillis dans votre bunker hanté, dans votre antre laboratoire, d'où vous menez toutes vos offensives et vos opérations esthétiques contre le monde qui va et la réalité d'aujourd'hui. Merci à Antoine Guillot d'avoir été présent et d'avoir participé à l'entretien. Merci à Laurent Polleret donc pour cette réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission Polar. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
La chance et le malheur pour nos amis d'être des morts.